Donc, ce qu'on vient de voir avait fait oublier le plan alpha. Et les Américains l'avaient un peu mis de côté. Et c'est aux Britanniques qui prennent le relais. Après tout, ce que pense Anthony Edens, c'est que Foster Dulles n'avait pas été suffisamment précis dans sa déclaration du mois d'août. Donc, on va mettre les points sur les i. Et c'est ce qu'il fait dans un discours, dit le discours de Goodall, le 9 novembre 1955. Alors, le discours d'Anthony Edens a été communiqué que la veille aux Américains et aux Français, ce qui fait que les Français et les Américains ne se considéraient pas engagés par le discours, puisqu'ils n'avaient pas eu le temps de communiquer leur réaction. Alors, donc, il reprend évidemment le diagnostic précédent, et en gros, il dit, qu'est-ce que veulent les Arabes? Ils veulent une négociation sur la base du plan de partage. Qu'est-ce que veulent les Israéliens? Une négociation sur la base des lignes d'armistice. Eh bien, négocions quelque part entre les deux. Donc, s'ils veulent vraiment la paix, ils arriveront dans une cadre de négociation avec garantie internationale et financement étranger à une solution pacifique. Alors, les Arabes répondent de façon prudente aux propositions britanniques. Mahmoud Fawzi pense plutôt que le plan de partage, ce serait le plan Bernadotte à prendre comme élément de référence, ce qui n'est pas idiot d'ailleurs, parce que le plan Bernadotte était plus cohérent que le plan de partage. Et l'Égypte se montre intéressée, mais évidemment elle refuse tout contact direct avec les Israéliens. Elle n'accepte simplement que des discussions avec des émissaires américains et britanniques qui ensuite transmettraient les propositions égyptiennes aux Israéliens, et c'est quand il y aurait un accord proche que l'on rendrait public la négociation, et à ce moment-là on passerait à la négociation publique. Évidemment, les Israéliens refusent absolument toute référence et au plan de partage et au plan Bernadotte, et ne veulent entendre que des frontières fixées le long des lignes d'armistice. La presse israélienne compare la proposition d'Eden à un nouveau Munich. Et décidément, on fera beaucoup d'utilisation de Munich dans cette région. On est dans une relative impasse. Et d'autant plus que les Américains restent sur la ligne du discours du 26 août et non pas sur la ligne du discours de novembre. Alors, en fait, les Américains et les Anglais avaient réfléchi pour essayer de trouver une solution. En gros, c'était une combinaison de diplomatie et de géométrie. Le problème était que les Arabes voulaient une continuité territoriale entre l'Égypte et la Jordanie, tandis que les Israéliens voulaient la continuité jusqu'à la mer Rouge, à Eilat. Il y en a un qui s'est rappelé qu'en géométrie, un point n'a pas d'étendue. Et donc, ils ont proposé de diviser le Negev en triangles qui se rencontreraient en un point. Et donc, comme un point n'a pas d'étendue, le problème était ainsi réglé. Alors techniquement, on aurait mis le sous-sol arabe, et le sol israélien au point et un pont arabe de l'autre côté, dans un mécanisme dit de triangle se rencontreraient. Donc les quatre triangles, vous voyez, ici sur ce schéma tiré des documents d'archives. Ce qu'on appelle en anglais des triangles qui s'embrassent, kisses triangle. Et donc, rappel géométriquement, un point n'a pas d'étendue. Hein? Donc la continuité territoriale des uns et des autres serait ainsi maintenue. Alors les uns et les autres ne sont pas du tout convaincus. Les Égyptiens, les Israéliens ne sont pas chauds du tout à céder du territoire national dans le Negev. Quant aux Égyptiens, il faut remarquer qu'est-ce qui se passerait si un soldat égyptien pissait du haut du pont sur le territoire israélien. Il y aurait un incident diplomatique, une crise internationale, etc. etc. Alors, par ailleurs, Charest obtient une livraison minimale d'armes américaines, de l'ordre de 10 millions de dollars, mais avec l'invention propre aux diplomates de distinguer des armes offensives et des armes défensives. Donc les Américains ne seraient prêts qu'à livrer qu'à des armes défensives à Israël, ce qui a toujours laissé quelques perplexités chez les militaires pour savoir quelle était la différence entre une arme offensive et une arme défensive. Du côté du gouvernement israélien, Ben Gurion est brusquement beaucoup moins enthousiaste à faire une guerre préventive. D'abord parce que la majorité du gouvernement est hostile. Alors je rappelle que les gouvernements israéliens étant des gouvernements de coalition, les décisions importantes sont prises en vote par le gouvernement lui-même et pas nécessairement au niveau du Parlement, mais on vote déjà à l'intérieur du gouvernement. Et donc, contrairement au système français, le Premier ministre peut se trouver mis en minorité à l'intérieur du gouvernement tout en restant au pouvoir. Le projet est là simplement rejeté. Et donc, comme il sent que le gouvernement est hostile à la guerre préventive, il l'abandonne, d'autant plus que Ben Gurion a des mauvais souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Il a vécu à Londres durant la bataille d'Angleterre, le Blitz, et il n'a pas du tout envie de voir les villes israéliennes connaître le sort des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à la fin de sa vie, ce sera d'ailleurs sa hantise du bombardement aérien arabe. Et il reste un problème technique. Si donc le gouvernement abandonne le projet de guerre préventive, on reste à la politique de représailles. À l'époque où Charest était Premier ministre et Ben Gurion ministre de la Défense, il avait été convenu que le lancement des opérations de représailles se ferait en concertation entre les deux hommes. Le problème est que maintenant, Ben Gurion est Premier ministre et ministre de la Défense. Donc, c'est lui qui décide sans conférer au gouvernement. C'est-à-dire qu'il décide avec lui-même. Il se concerte avec lui-même sur le sujet. Et c'est toujours dans le secteur avec la Syrie qu'il y a des problèmes parce que les Israéliens n'ont toujours pas récupéré leurs prisonniers tués par les Syriens. Donc, dans la nuit du 11 au 12 décembre 1955, Ariel Sharon lance une attaque surprise avec des forces les plus importantes jamais engagées par lui. 37 soldats syriens sont tués, ainsi que 12 civils contre 6 tués du côté israélien. Alors Charest est furieux parce qu'il n'était pas prévenu, et deux, il était en train d'essayer de négocier du côté occidental des livraisons d'armes à Israël, et que du coup, tous les fournisseurs d'armes occidentaux mettent un embargo pour punir Israël, pour sanctionner Israël, disons, du raid inattendu. Là, vous avez sur cette photo Ben Gurion et Moshe Charest dans un meeting. Tandis que Nasser, lui, il manifeste publiquement sa solidarité à la Syrie, mais refuse d'entrer dans une politique d'escalade. Au contraire, son discours se montre, en tout cas envers les Occidentaux, très ouvert aux propositions d'Anthony Eden, sans dire qu'il les accepte, il le demande plus, hein, mais il dit publiquement dans plusieurs interviews de l'époque qu'il est prêt à faire la paix avec Israël sur la base du plan de partage, du plan Bernadotte, etc. Il y a entre autres une interview avec Jean Lacouture à l'époque sur ce thème, ce qu'on peut considérer comme des signaux politiques à destination des Occidentaux. Et le Conseil de sécurité condamne par la résolution 111 la violence, etc., etc., demande l'échange des prisonniers et la fin des combats. Et clairement, au Conseil de sécurité, l'Union soviétique a pris la défense des intérêts arabes. Finalement, l'échange de prisonniers aura lieu le 29 mars 1956. Alors, un nouvel acteur intervient dans la région, c'est le secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, qui vient de prendre depuis quelques mois ses fonctions et qui décide, devant la montée des tensions, de prendre directement la gestion du dossier du Moyen-Orient en faisant une première tournée en janvier 1956 au Proche-Orient. C'est une prise de contact. Il a même l'illusion qu'il pourrait obtenir la démilitarisation des zones démilitarisées. Mais ça s'avère rapidement être un échec. Et on va donc à ce moment-là passer d'alpha à gamma, puisque les noms codes se suivent dans la politique américaine. Donc, Alpha, à la fin 55, a donné des résultats contrastés. Le plan Johnston a été transmis à la Ligue des États arabes, qui l'a renvoyé à une commission technique pour études complémentaires, ce qui est une façon universelle d'enterrer un problème. Mais Nasser dit qu'il s'agit que d'un simple ajournement et qu'il soutient le plan Johnston. L'Égypte nassérienne reste l'élément essentiel du dossier. Et on a promis à l'Égypte nassérienne de financer le barrage d'Assouan, le haut barrage qui doit être à Assouan. On l'appelle le haut barrage parce qu'il existe déjà un premier barrage à Assouan qui a été fait au début du XXe siècle. Alors, il y a un problème compliqué qui va vous montrer les difficultés britanniques. Je vous avais expliqué les années précédentes que l'Égypte était créditrice de ce qu'on appelait des balances sterling, c'est-à-dire les reliquats des dépenses britanniques durant la Seconde Guerre mondiale un peu partout dans le monde. Et en 1955, les balances sterling égyptiennes représentent 150 millions de livres sterling, ce qui est une somme absolument colossale. Quand on sait que les réserves de la Banque d'Angleterre, à l'époque, fluctuent entre 700 et 800 millions de livres sterling. Autrement dit, l'Égypte possède le cinquième des réserves en devises de la Grande-Bretagne. Or, en même temps, à cette époque, encore 40% du commerce mondial se fait en livres sterling. Donc, le problème des Britanniques, c'est qu'il faut financer le barrage d'Assouan sans que l'Égypte le paye avec des balances sterling, parce que sinon, c'est la monnaie britannique qui serait par terre. Ce qui rend, évidemment, le problème un peu plus compliqué. De surcroît, les Britanniques veulent évidemment que ce soit des compagnies britanniques qui participent aux travaux du barrage. Donc, qui pousse les Égyptiens à se tourner vers la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la BIRD, c'est-à-dire l'actuelle Banque mondiale, pour obtenir des crédits correspondants, donc de faire payer par les Américains et non pas par eux, le barrage. Mais la Banque mondiale, enfin la BIRD, se déclare prêt à couvrir une partie des frais du chantier, mais demande que le reste soit fourni par les États-Unis et par la Grande-Bretagne sous forme de balance sterling. Et d'autre part, puisque c'est financé par la Banque mondiale, la Banque mondiale veut que ça se fasse par appel d'offres international et non plus par contrat réservé aux entreprises britanniques, ce qui est évidemment déplaisant pour les Britanniques. Alors, dans l'été 55, un premier pas avait eu lieu en mettant un accord de déblocage des balances sterling égyptiennes sous forme de tranches successives de 15 millions puis de 20 millions de livres sterling annuels, ce qui permettrait de débloquer la totalité des balances sterling entre 1956 et 1963. Du coup, l'Égypte aurait eu la couverture en balance sterling de ses emprunts auprès de la Banque mondiale et auprès des Américains. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'annonce de contrats d'armement avec la Tchécoslovaquie. Alors, l'idée des Anglais et des Américains, c'est de pousser l'Égypte au maximum à investir dans le barrage de Aswan, ce qui fait que les disponibilités financières de l'Égypte seraient asséchées et qu'elle n'aurait pas les moyens de se continuer à se procurer de l'armement. Mais du coup, il faut que les Américains financent une partie des travaux. En fait, c'est pas tellement une question d'argent. L'Égypte a l'argent. Mais l'Égypte doit payer une partie des travaux en devise forte. Et donc, ce qui compte dans l'affaire du financement, c'est de couvrir les besoins du barrage, enfin de la construction du barrage, en devise forte. Et c'est ça pour ce que les Anglais, la Banque mondiale et les États-Unis sont censés fournir. C'est cette partie-là du projet. Mais le gouvernement d'administration Eisenhower a un nouveau problème. C'est que s'il demande au Congrès des États-Unis de financer une partie des travaux du barrage, le Congrès va exiger que ce soit des compagnies américaines qui participent aux travaux. Donc, évidemment, il y a bisbille entre les Américains et les Anglais pour savoir qui construira le barrage. Donc, ça explique le retard pris dans les négociations, parce qu'il y a une négociation préalable entre les États-Unis et la Grande-Bretagne pour définir le financement. Donc, la proposition est faite à l'Égypte seulement le 17 décembre 1955. Les États-Unis fourniraient 54,6 millions de dollars, la Grande-Bretagne 15,4 millions, et la Banque mondiale le reste pour la première phase des travaux. Et puis ensuite, la Banque mondiale avancerait l'argent pour les phases suivantes. Donc, ça permet de contrôler à chaque étape, puisqu'on divise par phase, le développement du chantier, et donc, par conséquent, de contrôler par là les finances égyptiennes. Le problème, c'est que les Égyptiens sont hyper sensibles sur ce sujet, parce que c'est la banqueroute égyptienne des années 1870 qui a amené l'occupation britannique en 1882. Occupation temporaire qui a duré trois quarts de siècle. S'il y a bien une chose que les Égyptiens ne veulent pas entendre, c'est d'un contrôle externe sur leurs finances. Ils ont de trop mauvais souvenirs. Il faut bien comprendre que le chantier d'Aswan est le chantier le plus important jamais engagé dans le tiers-monde à cette date. Et en même temps, c'est un chantier totalement politique. Donc, pendant qu'on discute, on commence à discuter avec les Égyptiens du financement du barrage, chose qui n'a évidemment rien à voir avec la paix israélo-arabe. Enfin, ce sont deux initiatives parallèles qui, évidemment, sont censées progresser au même rythme, de même que le plan Johnston n'avait rien à voir avec la question palestinienne. Les Américains lancent d'urgence la modification des plans alpha qui est codé gamma. Alors, gamma, c'est accélérer le processus fait par alpha sans les Britanniques, exclusivement par le biais d'un émissaire américain encadré par la CIA. C'est-à-dire que Gamma se fera sans contact avec les ambassades. Et en direct, piloté par la Maison-Blanche et par Foster Dulles, par le biais de la CIA. Les Britanniques seront tenus au courant et les Français informés. Vous voyez la distinction. Alors, la mission est confiée à Robert Anderson, qui est un ancien pétrolier texan, un ami personnel d'Eisenhower, qui a exercé déjà des fonctions ministérielles au ministère de la Défense et qui est chargé de procéder à un rapprochement entre Israël et l'Égypte. Là, vous avez la photo de Robert Anderson que vous pouvez voir. Donc, on fera miroiter à Nasser un soutien égyptien dans sa politique arabe, ainsi qu'un soutien matériel, le haut barrage. On laissera aussi entendre que s'il est pas sage, il y aura quelques problèmes sur le marché international du coton, pour le coton égyptien. Quant à Israël, on lui fera comprendre que c'est son intérêt de faire la paix, même si ça implique quelques sacrifices territoriaux. Donc, l'affaire sera menée directement et en secret par Anderson, avec simplement du côté égyptien Kermit Roosevelt, et du côté israélien Angleton, c'est-à-dire CIA, monde arabe, CIA Israël, qui gère le dossier. C'est-à-dire quand Anderson est en secteur égyptien, il est avec Kermit Roosevelt. Quand il est en Israël, il est avec James Angleton, les deux hommes des services de renseignement américains pour la région. Donc, du 17 au 21 janvier, Anderson est en Égypte, où il rencontre Nasser, évidemment dans un domicile privé, puisque l'affaire n'est pas publique. L'atmosphère est amicale, mais Nasser ne se montre pas convaincu de la nécessité d'agir maintenant. Tout en maintenant les options ouvertes, il refuse tout contact direct avec les Israéliens. Il dit que pour lui, ce serait des suicides politiques, voire même tout simplement suicides physiques, que de faire une telle chose. Il ne parlera qu'avec les Américains. Alors, ensuite, Anderson part pour Israël. Il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, c'est suivi par les deux frères, Foster Dulles, secrétaire d'État, et Alan Dulles, qui est le chef de la CIA, là, comme ils sont frères, ça facilite les choses pour la mission Anderson. Anderson, ensuite, rencontre Ben-Gurion et Charette, fait un rapport de discussion du Caire. Ben-Gurion exprime sa méfiance en disant que d'ici 6 à 8 mois, les Égyptiens auront le moyen de détruire Israël. Et ne cherche en négociant qu'à temporiser, à gagner du temps, et qu'Israël ne cédera jamais ni sur les territoires, ni sur les réfugiés. Ensuite, Anderson revient au Caire pour mieux définir les propositions, mais comme au premier tour, les Égyptiens s'en tiennent à des propositions générales et refusent de détailler la question. Donc, qu'on décide de faire une pause pour que les experts précisent les propositions. D'autant plus qu'on est centré dans une espèce de compte à rebours, puisque le 1er mars, les Israéliens ont annoncé qu'ils reprendraient les travaux hydrauliques dans la zone démilitarisée entre Israël et la Syrie. Donc la Syrie est menacée si les travaux reprenaient, de tirer, etc. Donc, on a une peur de conflagration générale. Alors, en février, la négociation Anderson reprend. On fait signer à Nasser une belle lettre en anglais. Enfin, vous comprenez parfaitement l'anglais. C'est une lettre qui a été en fait négociée entre Kermit Roosevelt et Nasser directement. dans laquelle Nasser déclare que son pays n'a aucune intention agressive et ne souhaite que se consacrer à son développement économique. L'Égypte défend les droits fondamentaux du peuple arabe, victime d'une injustice en Palestine, mais reconnaît qu'il est désirable d'éliminer les tensions entre les États arabes et Israël. Alors, ce qui est important, ce n'est pas le texte, c'est la signature, parce que Haïkal, dans ses différents écrits, nie que Nasser a signé la lettre. Donc vous voyez sur la photo qu'il y a bien la signature de Nasser. Alors, une fois qu'on a la lettre, on peut rediscuter. Mais à ce moment-là, l'Union soviétique se pose comme défenseur de la paix au Proche-Orient, dans une déclaration publique du 13 février 1956, et fait clairement comprendre que maintenant qu'elle est entrée dans le jeu local, il n'est pas question de se passer d'elle. Et que s'il doit y avoir un règlement de paix au Proche-Orient, ce ne doit pas être un règlement occidental, mais un règlement dans lequel l'Union soviétique serait partenaire. Ce dont, évidemment, les Occidentaux ne veulent pas entendre parler. Et dans le même discours soviétique, il y a un avertissement à Israël disant que la politique de la force menée contre les Arabes alimente leur hostilité et perpétue le conflit et donc fragilise l'existence même de l'État d'Israël. Il faut donc que Israël modère son activisme militaire, ce qui n'est pas nécessairement un mauvais conseil. Alors, les Occidentaux demandent vertueusement qu'ils n'ont aucun projet de règlement de paix au Moyen-Orient, puisque la négociation d'Herson est totalement secrète. Alors, on attend normalement le 1er mars pour savoir qu'est-ce qui se passera. Mais on oublie d'un côté jordanien des choses. Alors, il faut rappeler que en 1949, l'opposition palestinienne à la fusion avait été très très forte entre la Cisjordanie et la Jordanie. Elle était entre autres alimentée par le décalage culturel extrêmement important entre la Cisjordanie et la Transjordanie. Le niveau de développement économique et culturel de la Cisjordanie était beaucoup plus élevé que le petit État bédouin, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de paysans en Jordanie. Transjordanien. Et ça se traduisait par le fait que la monarchie d'Abdallah était une monarchie très patriarcale, alors qu'il y avait déjà des marxistes communistes en Cisjordanie. Puisque le mouvement communisme avait commencé à se développer en Palestine dans les dernières années du mandat palestinien. Mais en dehors du Parti communiste, il y avait surtout en Cisjordanie le développement de tous les nouveaux mouvements politiques du monde arabe, en particulier le mouvement des nationalistes arabes de George Habash, créé à l'université américaine de Beyrouth, le MNA, le Harakat al-Qawmiyyin. Il y avait aussi, évidemment, le parti basse qui commençait à se développer en Jordanie. Il y avait aussi, non moins classiquement, des frères musulmans, comme en Égypte, puisque les frères musulmans avaient commencé à s'étendre dans la région à la fin des années 40, et que Hassan el-Banna, le chef de la confrérie, avait envoyé son gendre, Sarit Ramadan, diriger la confrérie en Cisjordanie, Palestine, quelque temps avant sa mort. Et donc, la confrérie jordanienne avait des liens forts avec la confrérie égyptienne et était donc violemment anti-nassérienne. Et à côté de cela, Sarit Ramadan avait créé un congrès islamique pour lutter pour la cause palestinienne, qui était voisine des frères musulmans. En plus, il y avait une scission des frères musulmans jordaniens, qui était le Hizb al-Tahrir, parti de la libération, qui était une scission en 52, mouvement clandestin, dont le programme était de libérer le monde musulman de l'impérialisme occidental et de créer un État islamique mondial sous forme de califat, d'où le rejet de l'identité palestinienne. Ceci est très intéressant parce que le Hizb al-Tahrir est le premier à faire le son entre l'identité ethnique palestinienne et l'identité unique musulmane. Alors le Hizb al-Tahrir a progressivement été éliminé de Jordanie par la répression jordanienne, parce qu'il est considéré pas comme parti radical, et va connaître un sort extraordinaire puisqu'il va perdre sa racine moyenne-orientale pour s'établir en Europe de l'Ouest et de devenir le premier mouvement islamiste implanté en Europe de l'Ouest à partir de la fin des années 1950. C'est-à-dire qu'à partir de l'idée de califat mondial, le Hizb al-Tahrir va arriver à une vision musulmane complètement déterritorialisée, ce qui lui permettra essentiellement d'exister à l'intérieur des sociétés occidentales et être considéré aujourd'hui comme l'un des foyers du djihadisme par les différentes polices européennes ou occidentales. Alors, à côté des mouvements nouveaux, frères musulmans, nationalistes arabes, communistes, etc., on a classiquement en Cisjordanie des forces de notables, notables qui ont d'abord leur puissance locale, capables de faire bouger leur clientèle, mais aussi ces notables adoptent le vocabulaire politique moderne et s'allient avec les nouvelles forces politiques. Le cas le plus classique, c'était à Naplouse où on avait des grands notables comme Sulayman al-Daboulsi, qui avait fondé un parti socialiste national, qui était en fait le parti des Naboulsi, point à la ligne, qui était capable de faire alliance avec les différentes forces progressistes de la Cisjordanie. Alors, le jeune roi avait décidé, à partir de printemps 55, d'exercer un rôle plus important dans la vie politique. Et il avait pensé d'abord qu'il fallait temporiser dans la question du pacte de Bagdad. Et la Grande-Bretagne avait pris acte de la volonté de la Jordanie de temporiser dans le dossier du pacte de Bagdad et avait donc transmis à l'Égypte, à la Syrienne, que la Jordanie n'entrerait pas dans le pacte de Bagdad, ce qui était considéré comme un geste britannique en faveur de l'Égypte. Mais on n'avait pas compté sur la Turquie. Et en Turquie, Menderes ne pouvait pas accepter l'idée que la Jordanie allait rester à l'extérieur du pacte, car depuis la livraison d'armes tchèques, l'Égypte est devenue un danger considéré comme mortel par la Turquie, puisque la Turquie se trouverait pris entre deux feux, entre l'Égypte et l'Union soviétique. Et donc, en novembre 1955, Menderes envoie une délégation de haut rang en Jordanie pour pousser la Jordanie à adhérer au pacte, avec garantie militaire turque par rapport à Israël et par rapport à la Syrie. Et Hussein avait été conquis par ses idées, ainsi que Gholb Pacha. Alors à Londres, on s'inquiète un peu de tout ça, et on voit surtout le risque de voir la Jordanie s'éloigner de l'orbite britannique, donc on pousse, contrairement à l'engagement pris, la Jordanie à joindre le pacte de Bagdad. Les Américains demandent d'agir avec prudence, mais Londres passe outre. Et en décembre 1955, on envoie tout simplement le chef d'état-major impérial, le général Templer, à Amman, persuader la Jordanie d'entrer dans le pacte. Et évidemment, il y a des offres financières, des offres d'armement considérables à la clé de l'entrée de la Jordanie dans le pacte. Mais dès le premier jour de la visite du chef d'état-major impérial, des manifestations éclatent dans le pays. Et pratiquement à partir du 8 décembre, toute la Cisjordanie semble en état de quasi-insurrection contre la politique britannique. Les ministres palestiniens démissionnent du gouvernement et le gouvernement tombe le 14 décembre. Hussein essaie d'imposer un nouveau gouvernement, mais aucun Palestinien n'accepte d'y participer. Et à partir du 16 décembre, les émeutes semblent gagner la Transjordanie. Les consulats étrangers sont attaqués par les foules, dont le consulat de France, qui était fort peu populaire à l'époque. Et finalement, le roi cède en annonçant que le pays n'entrerait pas dans le pacte de Bagdad. Le bilan officiel des émeutes est de 41 morts et 150 blessés. C'est un fiasco total pour la politique britannique et la monarchie hachémite semble vraiment extrêmement vulnérable. Alors, dans tout ça, on ne voit pas que le 14 décembre, la Jordanie est entrée à l'ONU, qui est quand même une date importante, puisque pendant 10 ans, l'Union soviétique avait mis son veto à l'entrée de la Jordanie aux Nations Unies. Alors, vous noterez au passage qu'aucune clause territoriale n'a été imposée à la Jordanie lors de son entrée à l'ONU, contrairement à la légende qui voudrait que l'annexion de la Cisjordanie par la Jordanie n'aurait été reconnue que par le Pakistan et la Grande-Bretagne, ce qui est un thème que vous retrouverez encore sur le site du ministère israélien des Affaires étrangères. Au moment de l'entrée de la Jordanie à l'ONU, dans la résolution, aucune référence n'a été faite au statut territorial de la Jordanie, ce qui implique donc qu'on reconnaît son intégrité territoriale. Rappelons qu'en revanche, lors de l'entrée d'Israël en 49 à l'ONU, il y a des réserves concernant sa définition territoriale qui ont été émises. Spontanément, entre guillemets, l'Égypte et l'Arabie saoudite se montrent prêts à remplacer la Grande-Bretagne dans le financement de la Jordanie, parce que bon, faut bien comprendre que la Jordanie, ça n'existe que par des financements extérieurs. Dans les années 50, les financements extérieurs dépassent la moitié du budget de l'État jordanien. Sinon, la Jordanie n'est pas viable, tout simplement. Alors, le roi laisse courir. Mais si donc l'affaire du pacte de Bagdad est réglée, il reste l'affaire de Gholb Pacha lui-même. Depuis 1955, l'hostilité était latente entre le roi et le chef de son armée. Ostensiblement, le débat portait sur la question du déploiement de l'armée en Cisjordanie. La question était que Gholb Pacha voulait que l'armée jordanienne soit en retrait des frontières pour pouvoir agir de façon concentrée en cas d'attaque israélienne, exactement une stratégie parallèle menée par l'armée israélienne, alors que la population cisjordanienne voulait une garde statique de la ligne d'armistice parce qu'elle était soumise au raid de représailles israélien. La seconde question était l'arabisation des cadres, c'est-à-dire que Gholb Pacha voulait bien faire monter en grade les officiers arabes de l'armée jordanienne pour qu'ils remplacent progressivement les officiers britanniques, mais à condition qu'ils soient compétents, ce qui, dans la perspective de Gholb Pacha, prendrait une bonne quinzaine d'années pour terminer l'arabisation des cadres de l'armée. Mais la vraie question est de savoir qui était le maître dans le pays. Et au moment de la crise de décembre 1955, Ghulam Pacha a tout simplement envisagé un gouvernement militaire en Jordanie pour permettre l'entrée de la Jordanie dans le pacte de Bagdad. Et ça, évidemment, le roi ne pouvait pas accepter de laisser l'armée prendre le pouvoir, surtout si l'armée est dirigée par un général britannique. Donc, le roi va se rapprocher d'un groupe d'officiers arabes qui ont pris le nom d'officiers libres à la méthode égyptienne, à la mode égyptienne, pour avoir l'appui de l'armée avant de se lancer dans l'épreuve de force avec Ghulam Pacha. Et la date fatidique, c'est le 1er mars, parce que tout le monde pense qu'il y aura la guerre le 1er mars entre Israël et les États arabes. Et donc, dans cette perspective de la guerre pour le 1er mars, Ghulam Pacha a demandé à Londres de savoir quel rôle les officiers britanniques devraient avoir en cas de reprise de la guerre. Et Hussein décide de montrer qui est le maître dans le royaume, et le 1er mars, en s'appuyant sur les officiers libres, il renvoie Ghulam Pacha en Grande-Bretagne, immédiatement embarqué dans un avion à destination de Londres. Les principaux officiers britanniques connaissent le même sort dans les semaines qui suivent. De ce fait, l'armée arabe, Jaysh al-Arabi, ce qu'on traduisait par Légion arabe, c'était l'armée arabe qui était l'héritière de l'armée de la révolte arabe de 1916, redevient une armée purement arabe. Du coup, le roi acquiert une immense popularité, mais bien évidemment aussi la lutte pour le pouvoir est maintenant engagée entre les différentes factions jordaniennes. Alors, en Angleterre, à l'époque, Eden ne supportait pas Macmillan, qu'il considérait comme personnalité trop indépendante, il faut dire que c'était tout à fait juste, et il avait remplacé comme ministre des Affaires étrangères Macmillan par Sybil Lloyd au mois de décembre, parce que Sybil Lloyd ne connaissait rien aux affaires étrangères, et donc par conséquent serait plus à l'écoute d'un premier ministre, ex-ministre des Affaires étrangères, situation qu'on peut peut-être connaître dans d'autres pays aujourd'hui. Donc, il y avait justement à cette date-là la réunion de l'OTAS le 5 mars à Karachi. Et à l'époque, évidemment, les avions ne faisaient pas le trajet d'un seul train, donc les ministres occidentaux qui allaient à Karachi faisaient escale au Moyen-Orient. Et on avait donc prévu que Sybil Lloyd passerait par le Caire, où il rencontrerait Nasser, le 1er mars, sur la route de Karachi. Alors la scène est restée célèbre, il y a un dîner officiel au Caire entre Nasser et Sybil Lloyd, et dans la soirée, on apprend que Ghulam Pacha a été renvoyé. Et évidemment, Sybil Lloyd est absolument furieux parce que les Égyptiens n'ont rien dit, pour cause, ils n'étaient pas au courant. Mais il est absolument persuadé que c'est Nasser qui a fait chuter Sybil Lloyd, qui a fait chuter Ghulam Pacha de Jordanie, qu'en plus on s'est moqué de lui personnellement. La situation s'est aggravée, c'est que le lendemain à Bahreïn, toujours dans la route pour Karachi, Sybil Lloyd s'est fait lapider, enfin son cortège s'est fait lapider par la population, ce qui montre que même dans les Émirats du Golfe, la position britannique continue de se détériorer. Quant à Londres, la chute de Ghulam Pacha apparaît comme le symbole du naufrage de la politique d'Anthony Eden au Moyen-Orient. Alors vous vous rappelez, quelques mois auparavant, il était considéré comme le grand homme d'État qui réglait toutes les affaires du monde. Il ne connaît plus que échec sur échec. Alors c'est dans ce contexte que Anderson, toujours secrètement, repart pour le Moyen-Orient. Dans une époque confuse où de nouveaux incidents dans le secteur de l'Arc de Tibériade opposent Syriens et Israéliens, plus pour la première fois des combats aériens entre Syriens et Israéliens dans ce secteur. Donc évidemment, discours habituel demandant de la retenue à tout le monde. Aussi, violence du côté, dans le secteur, de la ligne d'armistice jordano-israélienne. Alors, le 4 et le 5 mars, Anderson rencontre de nouveau secrètement Nasser, et là, on exige que Nasser fasse un geste concret, c'est-à-dire qu'il obtienne de la Syrie et de la Jordanie l'approbation du plan Johnston du partage des eaux du Jourdain. Et Nasser refuse en disant qu'il ne veut pas risquer sa popularité chez les Syriens et les Jordaniens, et que le véritable problème, c'est le pacte de Bagdad. En fait, ce qu'Anderson notera avec justesse dans ses rapports, c'est qu'à chaque fois qu'on lui parlait de paix israélo-arabe, Nasser répondait toujours au pacte de Bagdad, qui était sa véritable obsession. Et je crois qu'il y avait un dialogue de sourds, parce qu'en fait, Nasser se moquait assez fortement de faire la guerre ou la paix avec Israël, puisqu'il était obsédé par l'Irak, dans les cadres des luttes inter-arabes. Et Nasser refuse aussi tout engagement d'ouvrir un canal de communication, même secret, avec les Israéliens. Pour Anderson, Nasser s'est dérobé et il ne tient pas compte de ses engagements. Et ensuite, Anderson transmet ces informations aux Israéliens et puis rentre à Washington et fait le compte-rendu à Eisenhower. La conclusion est que ni l'Égypte ni Israël ne veulent la guerre, mais que la situation est telle qu'elle peut se produire à n'importe quel moment. Et Eisenhower note dans son journal que Nasser dépend trop de l'opinion publique égyptienne et arabe pour prendre publiquement une attitude modérée envers Israël, que les Israéliens ne veulent rien céder en termes de territoire et que leur volonté de se procurer des armes aux États-Unis, alors qu'ils peuvent en trouver pour moins cher ailleurs, s'explique avant tout par le désir d'obtenir une garantie politique. Et d'autre part, l'Europe est totalement vulnérable parce que toute l'économie européenne dépend maintenant du pétrole arabe. Alors, il y en a un qui n'est pas au courant de tout ça, c'est le ministre français des Affaires étrangères, Christian Pinault, qui, lui, débarque au Caire le 14 mars, venant de Karachi, parce qu'il était aussi au sommet de l'OTAS. Alors, en fait, Pinault a débarqué inopinément au Caire, comme d'habitude, pour discuter de l'Algérie. Alors, l'affaire est assez opaque, mais il semble assez clair que Nasser se soit engagé à favoriser des négociations secrètes entre Français et le FLN au Caire. Mais comme le gouvernement français ne veut pas être impliqué dans la négociation, ce sera des membres du parti majoritaire, le SFIO, qui seront envoyés au Caire discuter avec les gens du FLN. Alors, par ailleurs, il y a eu une discussion assez vaseuse dans laquelle Nasser aurait donné sa parole d'officier qu'il n'y avait pas de camp d'entraînement du FLN sur le sol égyptien, et que de l'autre côté, Pinault aurait eu comme engagement que la France allait justement mener une politique libérale en Algérie et qu'on allait trouver une solution politique à la guerre d'Algérie. Alors tout ça avait été rendu public en termes dans un communiqué un peu vaseux qui avait plutôt compliqué les choses. En ce qui concerne le dossier israélien, Nasser a resté sur les positions de la mission Anderson, disant qu'il était prêt à faire une paix Israël sur la base du plan de partage, etc. Donc il en était resté à Alpha. Et Pinault donc transmet un télégramme à sa sortie du Caire, disant Nasser m'a dit qu'il veut faire la paix avec Israël, ce qui sera transformé 10 ans après dans ses mémoires par Nasser veut détruire Israël. Hein, ce qui fait que les lectures des mémoires sont parfois un peu dangereuses à confronter avec les documents d'archives. Alors, il y aura évidemment un malentendu total. Parce que d'un côté, en effet, il y aura discussion entre une délégation de la SFIO et une délégation du FLN-Hocker, selon l'accord négocié avec Nasser. Mais d'autre part, la première chose que fera le gouvernement Guy Mollet au retour de Pinault, c'est de voter les pouvoirs spéciaux en Algérie et de rappeler le contingent. Ce qui, évidemment, n'est pas considéré en Égypte comme une démonstration d'une recherche d'une solution politique. Et donc, Nasser se sentira dégagé de l'engagement concernant les camps d'entraînement du FLN, dans la mesure même où les Français n'ont pas tenu parole en votant la loi des pouvoirs spéciaux, le rappel de contingent, en Algérie. Donc, à son tour, il ouvrira des camps d'entraînement du FLN sur le sol égyptien, et la France hurlera en disant que l'Égypte n'a pas respecté l'engagement de la discussion. Alors, reste maintenant ce qui se passe à Washington, parce qu'il faut qu'on termine l'alphabet grec. Donc, le 12 mars, Anderson rencontre Eisenhower. Donc, les conclusions sont transmises à la bureaucratie. Le 14 mars, le département d'État commence à dessiner la forme du nouveau plan d'action américain. L'Égypte de Nasser est maintenant un obstacle pour tous les projets occidentaux dans la région, tout aussi bien dans la défense contre l'Union soviétique que dans l'absence de règlement de paix entre Israël et les pays arabes. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'affronter directement l'Égypte nassérienne, car une confrontation directe risquerait de renforcer la popularité de Nasser. Il faut donc travailler à affaiblir l'Égypte nassérienne en retardant sous différents prétextes techniques les demandes d'aide, en poussant la Syrie et le Soudan à s'opposer à l'Égypte nassérienne. Il s'agit, sans rompre avec l'Égypte, de lui faire passer le message que les États-Unis ne sont pas contents. En même temps, à Londres, on est arrivé aux mêmes conclusions. D'ailleurs, on décide, au niveau des services de renseignement britanniques et américains, de préparer un coup d'État en Syrie pour éliminer les nationalistes arabes au pouvoir, parce qu'ils sont de tendance pro-nassérienne. Alors, on a réussi à faire une coalition hétéroclite, regroupant les Turcs, les Britanniques, les Américains, le Parti populaire syrien, qui est une formation antinationaliste arabe en Syrie et au Liban, les anciens des coups d'État de 49 éliminés depuis, ainsi que les forces de droite. Les Israéliens sont au courant, et on le verra tout à l'heure, enfin la semaine prochaine, sont tellement au courant qu'ils vont prévenir les Français de la préparation du coup d'État à Damas. Donc le 28 mars 1956, la réflexion de la bureaucratie est terminée et le plan d'action reçoit logiquement le nom de code Oméga. Oméga, c'est pour marquer le caractère définitif de la décision. On va isoler l'Égypte, paralyser son économie, susciter le maximum de concurrence dans le monde arabe. Et en particulier, il n'y a qu'une seule solution pour régler la question du nationalisme arabe, c'est de créer un antagonisme, c'est s'appuyer donc sur l'islam politique pour limiter les dégâts. Donc, on mettra en avant l'Arabie saoudite, défenseur de l'islam, contre le nationalisme arabe qui a vraiment trop de faveur pour Moscou. Alors, Oméga va être géré au niveau du Middle East Planning Group, avec Russell, qu'on a déjà vu dans Alpha. Et en même temps, Eisenhower prend une autre décision fondamentale. Nous sommes maintenant, vous l'avez vu, en fin mars, début avril 1956, nous sommes à moins de 6 mois des élections présidentielles américaines. Eisenhower a décidé de ne pas se laisser influencer par une quelconque considération, entre guillemets, locale pour les élections présidentielles, même au risque de mettre en cause sa réélection, c'est-à-dire en clair, il n'y aura pas de livraison d'armes américaines à Israël, ni de garantie de sécurité américaine à Israël. Le message est passé au Congrès par le biais du chef des démocrates au Sénat, Lyndon B. Johnson, pour expliquer que les États-Unis ont deux intérêts majeurs, la préservation de l'État d'Israël et le maintien des relations amicales avec les Arabes, car cela implique la liberté d'approvisionnement de pétrole de l'Europe. La tentative d'arriver à un règlement du conflit israélo-arabe a échoué et la principale préoccupation immédiate est d'éviter la guerre. Il faut éviter de se trouver dans une situation où on aurait sauvé Israël en perdant l'Europe. Pour cela, il faut s'opposer vigoureusement à toute agression, d'où qu'elle vienne, au Moyen-Orient. Donc, on voit la complexité de la prise de décision américaine, qui, d'une part, vise par oméga à isoler l'Égypte nassérienne, mais de l'autre côté, interviendra contre toute violation, quelle qu'elle soit, des lignes fixées par les armistices de 1949. C'est-à-dire, vous avez très parfaitement compris, qu'en mars, début avril, on est déjà dans la conjoncture des forces de la crise de Suez. Nasser, lui, soupçonne des intentions américaines et fait savoir par ce qu'on appelle gentiment le canal habituel, c'est-à-dire la CIA, s'il n'y a pas une tentative américaine pour détruire son régime. Car lui, il doit avoir mal entendu, il n'a jamais mis fin à la mission Anderson. Et les Américains lui répondent par le canal habituel que les Américains attendent quand même une certaine réciprocité dans les rapports. Alors, dans ce cadre d'Oméga, la première décision est de ne pas financer le haut barrage, mais de ne pas le dire. On va accumuler les obstacles techniques dans la négociation avec l'Égypte concernant le haut barrage. Donc, dans ce début d'avril 1956, tout le caractère de la crise de Suez est déjà parfaitement défini, ce que nous verrons bien évidemment la semaine prochaine dans la suite du grand feuilleton.